Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Question de 12 études intitulée Pèlerinage à travers l'Épître aux Romains. Derek Prince nous entraîne dans un voyage à travers les 8 premiers chapitres. Vous serez à la fois inspiré et mis au défi. Voici maintenant la deuxième étude.
Pèlerinage à travers l'Épître aux Romains. Romains chapitre 1, verset 18, jusqu'au chapitre 2, verset 16. Dans la partie précédente, nous avons étudié les 15 premiers versets de Romains 1. Dans ces versets, Paul se présentait les chrétiens de Rome et l'Évangile. Pour compléter l'introduction de l'Évangile, nous allons voir maintenant les versets 16 et 17. Des versets très connus et puissants. Paul nous dit, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Paul résume l'Évangile et il donne une bonne raison pour laquelle il n'en aura jamais honte. Parce que c'est la puissance de Dieu. Si nous avons déjà eu honte de l'Évangile, c'est parce que nous avons perdu de vue le fait que c'est la puissance de Dieu. Personne aujourd'hui n'a honte d'une puissance, surtout si c'est celle de Dieu. C'est la puissance de Dieu, non pas pour la destruction, mais pour le salut, pour la délivrance totale de la personnalité humaine, esprit, âme et corps. Pour ceux qui croient, le mot-clé est « croire ». Puis Paul dit que c'est pour le juif en premier lieu, mais aussi pour le grec ou le païen. Historiquement, l'Évangile a d'abord été présenté aux juifs, puis au monde païen. Paul résume tout cela au verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dans ces deux versets, nous avons soit le verbe croire, soit le mot foi, quatre fois. Souvenez-vous qu'en grec, les deux sont étroitement liés. La foi, c'est pistis, et croire, c'est pistueo. Ainsi, alors que nous avons deux mots différents en français, le verbe et le nom, en grec, ce sont les mêmes mots. Et l'essence de tout cela, c'est croire. C'est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Et cela nous révèle la justice de Dieu. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que le mot-clé de l'Épître aux Romains était la justice. Ici, Paul souligne qu'à travers l'Évangile, Dieu a révélé une voie par laquelle l'homme peut devenir juste aux yeux de Dieu. Et il cite à nouveau l'Ancien Testament dans le livre du prophète Habacuc, chapitre 2, verset 4, pour prouver que ce qu'il dit ne vient pas de lui, mais que c'est quelque chose qui a été déterminé et annoncé par les prophètes de nombreuses années auparavant. Ainsi, la principale bénédiction de l'Évangile est de nous apporter la justice. Une justice que Dieu agrée. Nous verrons en allant plus loin que c'est la seule base de justice qui nous permet de recevoir toute autre bénédiction de Dieu. Dans Romains 5, nous verrons que Paul parle du don de la justice. Puis au chapitre 6, il parle du don de la vie éternelle. On ne peut pas inverser l'ordre. Un Dieu juste ne peut pas déverser ses bénédictions sur des hommes et des femmes injustes. Le premier problème à résoudre était donc celui de la justice. Vous souvenez-vous de la question de Job que je vous ai posée? Comment un homme mortel serait-il juste devant Dieu? La réponse est en croyant à l'Évangile. Mais quand nous utilisons le mot foi, nous devons faire attention à un malentendu qui s'est infiltré dans l'Église au cours des siècles. En hébreu et en grec, le mot utilisé pour foi décrivait au départ le caractère, puis la croyance. Ainsi, réduire l'Évangile à une simple proposition théologique, c'est lui voler une part de vérité. Ils ont continué à dire combien ils étaient sages, mais à la fin, ils sont devenus de plus en plus fous. Le deuxième résultat, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Le premier grand péché est la transgression du premier commandement. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Et j'ai vu ces dernières années, en voyageant dans différentes parties du monde, où l'idolâtrie est visible et propagée, combien ce péché est horrible. Il n'y a pas de mot pour décrire la laideur de l'idolâtrie. Pouvez-vous imaginer l'insulte qui est faite au grand Dieu éternel quand on le dépeint sous la forme, et remarquez bien que c'est une régression, d'homme, de créature ailée, de quadrupède et finalement de reptile. Ça va toujours vers le bas, jamais vers le haut. Une fois que vous avez franchi ces deux étapes de la régression, vous continuerez à vous enfoncer, à moins que vous ne vous repentiez. Continuons pour voir le jugement de Dieu sur la race humaine en conséquence de ces choses. Trois fois dans ce passage, Paul utilise l'expression « Dieu les a abandonnés ». Quelle phrase terrible. Moi je prie Dieu ne m'abandonne jamais. Peut-être que je n'apprécie pas la façon dont tu me traites, ô Dieu. Peut-être que je me plains, mais s'il te plaît, ne m'abandonne jamais. Il y a une phrase dans le livre d'Osée, à propos de la tribu d'Éphraïm, il dit « Éphraïm s'est attaché à des idoles, abandonne-le ». C'est la pire chose que Dieu puisse dire, « abandonne-le ». Et remarquez que c'était encore une fois à cause de l'idolâtrie. Bien, la première chose à laquelle Dieu les a abandonnés, c'est à la débauche et à la profanation, aux souillures. Versets 24 et 25. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Voici un autre exemple montrant que Paul parle comme un hébreu. Parce que chaque fois qu'un juif orthodoxe nomme la parole de Dieu, il conclut toujours avec l'expression « Barak U », qu'il soit béni. Et vous voyez, Paul ne pouvait écrire le Créateur sans dire « qui est béni éternellement, Amen ». Vous constatez, ils ont échangé leur ressemblance avec Dieu pour quelque chose de vil et de dégradant. Dieu leur a donné une forme à sa ressemblance, mais parce qu'ils ont dévié, qu'ils ont profané, Dieu leur a dit « Ok ». Je vais vous laisser profaner vos corps par la débauche et l'impureté. Mais c'est seulement le premier abandon. Le deuxième « abandonne-les » est au verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Qu'est-ce que Paul est en train de décrire en un mot? L'homosexualité. C'est l'étape suivante vers le bas. Il est intéressant que ces premiers jugements affectent leur corps. Nous allons voir maintenant le premier jugement affectant leur esprit. Il est intéressant que Paul dise que ce sont les femmes qui ont ouvert la voie à l'homosexualité. En ce qui concerne la Grèce, c'est historiquement correct. Sur l'île de Lesbos, vers le 9e ou 8e siècle, il y avait une poétesse grecque qui s'appelait Sappho, qui était ce qu'on appelle une lesbienne. C'est de là que vient le mot, et qui écrivait des poèmes à la gloire de ce genre de relation. En un sens, c'est une très belle poésie, mais tellement corrompue. Et c'est assez frappant que des formes d'art aussi excellentes soient parfois utilisées pour glorifier les choses les plus abjectes. Et il semble que les hommes aient suivi le modèle des femmes. Je vois que c'est quelque chose d'assez courant. Les hommes, vous savez, d'une certaine façon, sont plutôt mous. Si les femmes décident de mener dans de nombreux domaines, les hommes les laisseront faire. Mais les résultats ne seront jamais ce que Dieu voulait. Il est dit qu'ils ont reçu en eux ou dans leur propre personne la punition de leur erreur. Quel terme actuel pourrait résumer cela? Oui, le mot sida en est un. Mais je ne crois pas que le sida soit la seule conséquence de cela. c'est probablement la plus drastique. Paul dit dans 1 Corinthiens 6, 18 que toute personne qui pratique l'immoralité pèche contre son propre corps. Et j'arrive à la conclusion que nous devons prendre cela en compte. Vous ne pouvez pas pratiquer l'immoralité sans causer du tort à votre corps. Je suis arrivé à cette conclusion en exerçant mon ministère auprès des malades. Si nous ne considérons pas cela comme une cause courante de maladie, nous ne traiterons probablement pas la racine du problème des gens qui viennent à nous. Vous comprenez, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas être pardonnés, mais je dis qu'il faut affronter cette éventualité, la reconnaître, ainsi que les résultats qu'elle produit. Bien. C'est donc le second, abandonne-les. Maintenant, nous allons voir le troisième qui se trouve à la page suivante, des versets 28 à 32. Ce sont des versets terribles. Je ne les ai jamais lus sans ressentir une certaine angoisse. Et pourtant, je suis obligé de reconnaître leur absolue véracité. L'Éternel dit les choses comme elles sont. Allons donc au verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés. Et arrêtons-nous ici un moment. Ils n'ont pas voulu connaître Dieu. Pourquoi ? Je crois que c'est le diagnostic qui est aujourd'hui universel. Pourquoi n'ont-ils pas voulu connaître Dieu ? Parce qu'ils savaient que s'ils le faisaient, ils auraient des comptes à lui rendre. Et ils auraient à rendre compte de leur conduite. Et je crois que ce que je vois dans l'humanisme au sens large, l'idée farouchement rejetée, c'est celle d'être soumis à Dieu et d'avoir à lui rendre des comptes à propos de notre conduite. Vous savez qu'en tant que philosophe, j'ai dû étudier les théories scientifiques courantes, non pas en tant que scientifique, mais pour leurs implications générales. Je dois dire que grâce à Dieu, sans être religieux et sans croire en la Bible, je n'ai jamais cru à la théorie de l'évolution. Pour moi, c'est la théorie la plus terriblement improbable que quelqu'un puisse concevoir. Pourquoi les gens y croient-ils ? Ils vous le disent carrément, parce que c'est la seule autre alternative à celle de la création. Pourquoi n'en veulent-ils pas ? Ils ne veulent pas avoir à rendre compte à Dieu. C'est la véritable motivation de base. Allons plus loin. Comme ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu. Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés. Qu'est-ce qui est plus terrible que les sens réprouvés ? Dans les deux cas précédents, Dieu les a livrés à des problèmes physiques, des péchés physiques, mais maintenant toute leur intelligence est pervertie. Ils deviennent remplis de toute espèce d'injustice. En fait, cette liste contient 21 choses. Nous n'aurons pas le temps de tout analyser en détail, mais je vous suggère de les lire et de dire « C'est ainsi que finissent ceux qui refusent de reconnaître Dieu, de le glorifier et de lui rendre grâce. » Remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Dans la traduction anglaise, le mot « malice » est utilisé deux fois. Ce qui est étrange car il a un sens différent. La première fois, je traduirai volontiers par vice, toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de vice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, méprisant, impie, arrogant. Frères et sœurs, remarquez où apparaît le mot médisance, c'est important. Parce que moi, la médisance est le péché, pour moi, la médisance est le péché numéro un de l'Église. Et c'est juste à côté des meurtriers et des impies. Arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, au mal, rebelles à leurs parents. Remarquez d'où cela vient. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, implacable. Le mot traduit par dépourvu de loyauté désigne des personnes avec lesquelles vous ne pouvez pas faire alliance. C'est peut-être le trait le plus visible de notre époque. Les gens ne veulent plus faire d'alliance. Les nations brisent les traités, les gouvernements ne tiennent plus leurs promesses, les hommes et les femmes brisent leurs vœux de mariage. Le plus grand problème de notre société est que les hommes et les femmes ne veulent plus faire d'alliance. Et finalement, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Il est étonnant de voir comment parfois les gens qui pratiquent ces choses se soutiennent et s'encouragent entre eux. Je pense qu'ils se sentiraient seuls s'il leur fallait maintenir leur position par eux-mêmes. Ainsi, quand ils trouvent quelqu'un d'aussi mauvais qu'eux, ils s'empressent de l'applaudir. J'aimerais souligner, même si nous n'avons pas le temps de lire, que dans 2 Timothée 3, 1 à 5, vous trouverez un parallèle historique. Paul y dit que dans les derniers temps, les hommes seront, et il décrit à peu près toutes ces choses. Romains est la logique, et 2 Timothée est la mise en œuvre historique. Nous devons le garder en mémoire. Cela est en train de s'accomplir. Laissez-moi terminer par cette phrase que j'ai ici. La corruption est irréversible. C'est d'une importance capitale. Le résultat du péché de l'homme est la corruption dans toutes les parties de son être. La corruption ne peut s'inverser dans aucun domaine de la vie. Alors le programme de Dieu est de faire une nouvelle création, de recommencer. Mais ceux qui ne veulent pas entrer dans cette nouvelle création doivent endurer les progrès inévitables de la corruption dans leur vie. Fin de la première partie. Deuxième partie. Un petit résumé de ce que nous avons couvert. Dans la partie précédente, nous avons vu la première étape de ce pèlerinage de l'Épître aux Romains, et je vous ai dit brièvement ce qu'était cette étape. Elle est contenue dans la seconde moitié du premier chapitre, et traite de la culpabilité universelle de la race humaine. Paul affirme que tout homme ayant une compréhension normale a reçu, à travers la création et grâce à sa capacité interne, logique et mathématique, une révélation adéquate et suffisante de Dieu dans chacun de ses aspects. Par conséquent, il est responsable par rapport à cette révélation. Mais Paul dit qu'en fait, ce qui s'est passé avec la race humaine, c'est qu'elle n'a pas voulu retenir la connaissance de Dieu, qu'elle s'est volontairement détournée et qu'elle a immédiatement commencé à se créer de faux dieux. Elle est tombée dans l'idolâtrie, qui est le plus grand des péchés, et qui représente la désobéissance au premier des commandements. Cette idolâtrie l'a entraînée sur une mauvaise pente. Et quand elle a pris ce chemin, Dieu l'a en fait livrée à la luxure et à l'impureté en premier lieu, ensuite à l'homosexualité, et enfin à ce que Dieu appelle un esprit dépravé, qui peut s'exprimer dans toutes sortes de vices et de méchancetés. C'est là que se termine le chapitre 1. Nous sommes au fond d'un horrible gouffre. Combien d'entre vous se souviennent des deux premières étapes de régression de l'humanité qui l'a conduite à cette horrible fin? Oui, ils ne l'ont pas glorifié et ils ne lui ont pas rendu grâce. Nous allons maintenant entrer dans le chapitre 2 et considérer l'étape suivante de ce pèlerinage. Le chapitre 2 parle des gens qui ont été coupables de toutes les choses dont la race humaine est coupable, mais qui néanmoins, parce qu'ils ont acquis une certaine connaissance religieuse, pensent qu'ils sont meilleurs et qu'ils appartiennent à une catégorie différente, du fait qu'ils savent ce qui est bien et ce qui est mal. En tout cas, Paul souligne simplement que loin de les rendre meilleurs, cela augmente leur responsabilité. Ils sont d'autant plus responsables qu'ils en savent plus. Maintenant, nous devons donc nous souvenir que Paul a écrit tout cela il y a 19 siècles ou plus, et il adresse donc ses remarques en premier lieu au peuple juif, parce qu'à cette époque, le peuple juif avait l'avantage sur les autres nations, puisqu'ils avaient, comme le dit Paul, les oracles de la parole de Dieu. Ils connaissaient donc les exigences de Dieu concernant le bien et le mal, ce que les autres nations ne connaissaient pas. Mais Paul dit que loin de les rendre meilleurs, cela les rendait simplement plus responsables pour le mal qu'ils commettaient. Je pense qu'il est important de comprendre qu'après 19 siècles, les choses se sont inversées en un certain sens. Ce ne sont plus les Juifs qui ont la connaissance aujourd'hui, mais les chrétiens. Beaucoup d'entre eux, grâce à leur contexte national ou racial, ont derrière eux des siècles de tradition chrétienne et de connaissance de Dieu, ainsi qu'une familiarité avec la Bible. Par rapport à la responsabilité, ce que nous savons, nous sommes donc maintenant à la place des Juifs 19 siècles en arrière. Cela n'exonère pas les Juifs, mais cela place sur nous la responsabilité qui était sur eux à cette époque. Ainsi, à travers ce que Paul dit en parlant de son propre peuple, « Vous, juifs, je ne vais pas changer les mots, mais aujourd'hui, ce pourrait être vous, chrétiens. » Vous voyez, je pense qu'il est très clair, par l'état de l'Église aujourd'hui, que des multitudes de chrétiens sont contents d'en savoir plus que les autres, mais qu'ils ne sont pas capables de l'appliquer, de le mettre en pratique. C'était précisément le problème des juifs du temps de Paul. Je ne veux pas aller dans les détails des scandales dans l'Église, parce que tôt ou tard, ils seront dépassés. Il y en aura de nouveau. Mais soyons honnêtes, nous sommes dans la même position que les Juifs du premier siècle. Nous sommes les plus responsables, et nous allons voir cela en avançant. Je vais lire les 16 premiers versets du deuxième chapitre de Romains, en commençant par le verset 1. Donc, chaque fois que Paul dit « donc », il faut que vous soyez attentifs et que vous vous demandiez pourquoi il utilise ce mot. Beaucoup d'entre vous connaissent mon expression. Quand vous trouvez un « donc », vous devez vous demander pourquoi il est là. Jeu de mots en anglais intraduisible en français. Bien, ce « donc » est là à cause du chapitre 1 qui conclut que toute l'humanité est coupable. Nous traitons maintenant des gens qui jugent les autres parce qu'ils en savent plus, mais ils sont dans la même catégorie. C'est pour cela qu'il emploie « donc ». Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de son longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Laissez-moi faire une pause pour vous dire que c'est une chose effroyable, n'est-ce pas? Amasser la colère de Dieu sur soi. Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'exception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Tant les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont pas la loi une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Selon son habitude, Paul est très passionné et il faut beaucoup d'attention pour trouver précisément ce qu'il veut dire. Laissez-moi tout d'abord vous faire remarquer quelque chose de très important. Paul nous donne ici 5 principes du jugement de Dieu. Et nous allons d'abord les voir, puis nous regarderons certaines autres choses que Paul dit dans ce passage. Le premier principe du jugement de Dieu se trouve au verset 2, mais je vais le lire dans une version différente, plus proche à mon avis de l'original. Le texte dit « Le jugement de Dieu tombe justement sur ceux qui pratiquent de telles choses. » Mais le texte littéral dit « Le jugement de Dieu est selon la vérité sur ceux qui pratiquent de telles choses. » Ainsi, le premier principe est que le jugement de Dieu est selon la vérité. Et je crois qu'en premier lieu, cela signifie que c'est selon la vérité de la parole de Dieu. Dans Jean 17:17, Jésus parle au Père et il dit « Ta parole est la vérité ». C'est extrêmement important. Ta parole, la parole de Dieu, est la vérité. Et je pense qu'il serait bon de répéter ces paroles une fois ensemble. Ta parole est la vérité. Encore une fois, ta parole est la vérité. Ainsi, quand Paul dit que nous serons jugés selon la vérité, ce qu'il dit, c'est que nous serons jugés selon la parole de Dieu. Et Jésus lui-même le dit dans Jean 12, 47-48, Jean avertit le peuple d'alors qu'un jour, ils devront faire face au jugement selon les paroles qui leur auront été dites. Jean 12, 47-48. Jésus parle. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ainsi, nous devons nous souvenir, en lisant les Écritures, que nous avons déjà rencontré notre juge. Et c'est pour cela que Paul dit dans 1 Corinthiens 11 qu'il faut nous juger nous-mêmes si nous ne voulons pas que Dieu nous juge. Si nous lisons la parole de Dieu, que nous l'appliquons dans nos vies, que nous nous repentons et que nous mettons nos vies en règle avec cette parole, nous nous sommes jugés nous-mêmes. Car c'est là la norme du jugement divin. Si nous faisons cela, Dieu ne nous jugera pas. Chacun d'entre nous a réellement deux options. Nous pouvons nous juger nous-mêmes selon la parole de Dieu et mettre en règle nos vies par rapport à elle, ou nous pouvons refuser de le faire. Alors Dieu devra nous juger selon sa parole. Mais l'une des grâces de Dieu est de nous avoir donné à travers la Bible son modèle de jugement afin que nous puissions nous l'appliquer nous-mêmes. Et comme Paul l'indique dans ce chapitre, la personne qui doit appliquer le modèle n'est pas votre frère, ni votre voisin, mais bien vous. Le deuxième principe du jugement de Dieu est énoncé au verset 6, dans lequel Paul dit que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Tout au long de la Bible, il est souligné que le jugement de Dieu sera basé sur nos œuvres, sur ce que nous avons fait. Nous ne serons pas jugés sur des proclamations que nous aurons déclarées, ni même sur les prières que nous aurons dites, mais nous serons jugés sur ce que nous aurons réellement fait. Si nous regardons dans 1 Pierre 1, l'auteur souligne cela dans un langage très clair. 1 Pierre 1,17. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, le verset se poursuit, ces paroles sont adressées à des chrétiens comme vous le voyez. Si nous appelons Dieu notre père, ce que nous avons le droit de faire en tant que chrétiens, nous devons nous souvenir qu'il juge impartialement selon les œuvres de chacun. Ainsi, il est dit, et c'est une affirmation remarquable, que la plupart des chrétiens ne sont pas prêts à recevoir. Il est dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Je n'ai pas souvent entendu souligner cela. Mais nous devons vivre dans la crainte de Dieu, sachant qu'un jour nous aurons à rendre compte à Dieu de la vie que nous avons menée. Et entendons-nous bien, Pierre parle à des chrétiens. Et il continue au verset suivant, verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voyez-vous, l'une des raisons pour lesquelles nous devons prendre tant de soin de notre marche avec Dieu, c'est à cause du prix qu'il a payé pour nous racheter, le sang de son propre Fils, le sang de la vie de Jésus. C'est la valeur que Dieu a mise sur nous. Plus vous estimez quelque chose, plus vous en prenez soin. Ainsi, Dieu pose un regard scrutateur sur la vie de ses enfants à cause du prix qu'il a payé pour nous racheter. Si vous allez dans un magasin bon marché pour acheter un bijou fantaisie, vous ne vous faites pas trop de soucis si vous le perdez. Mais si votre mari, supposons que vous avez un mari et qu'il est généreux, vous achetez une belle bague ou quoi que ce soit d'autre, plutôt cher, vous allez alors y faire très attention, n'est-ce pas? Non seulement à cause de sa valeur, mais à cause de celui qui vous l'a offerte. Ainsi, Pierre dit que nous devons faire très attention à la vie que nous menons à cause de l'important investissement que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Et il souligne que Dieu va nous juger sur ce que nous avons fait. Souvenez-vous-en, vous ne serez pas jugé par rapport à votre dénomination, mais par rapport à votre vie. Vous ne pourrez pas vous présenter devant Dieu et dire « Bien, je suis méthodiste ou baptiste ». Dieu vous dira « Ce n'est pas la question, la question est de savoir comment tu as vécu ». Revenons au chapitre 2 des Romains. Le troisième principe du jugement est énoncé au verset 11. Romains 2, verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Point de favoritisme. Dieu est impartial. Le mot personne en grec est le mot face. Et cela signifie l'apparence extérieure de la personne. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des pièces anciennes, Mais au commencement, vous avez une liste des personnages du drame. On présente les différents personnages. C'est la signification de ce mot. C'est ce que vous êtes sur la scène. Le rôle que vous jouez. Et Paul dit que Dieu ne s'intéresse pas au rôle que vous jouez. Il s'intéresse à ce que vous êtes vraiment. Personne ne sera jugé sur le rôle qu'il a joué ou sur la position qu'il a occupée pendant sa vie. Le général sera jugé de la même manière que le simple soldat. Le prédicateur sera jugé de la même manière que le nouveau converti. L'homme riche sera jugé tout comme le mendiant de la rue. Car Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure et ne juge pas sur cette base. Et l'homme pauvre, qui n'a personne pour le recommander. Vous regardez donc ce qui frappe aux yeux. Pierre, Jacques et Paul disent « Dieu regarde à ce qui est à l'intérieur ». Enfin, le principe de jugement suivant, qui est très important pour nous aujourd'hui, est implicite, même s'il n'est pas énoncé, au verset 12. « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi ». J'interprète cela de la façon suivante. Nous serons jugés selon la lumière que nous avons. Si nous avons eu la pleine lumière de la loi, nous serons jugés en fonction de cela. Mais si nous n'avons pas eu cette lumière, nous serons jugés par rapport à la lumière que nous avons effectivement eue. Encore une fois, je dois appliquer cela à vous et à moi aujourd'hui, au pays dans lequel nous vivons. J'aimerais vous demander s'il y a déjà eu une génération de chrétiens dans l'histoire de l'Église qui ait eu une plus grande lumière à sa disposition que celle de la génération dans laquelle nous vivons. Nous avons autant de Bibles que nous voulons, des commentaires, des livres d'enseignement, nous allons à des réunions, à des meetings, nous allumons la radio, nous entendons un prédicateur. C'est merveilleux. Remerciez Dieu pour cela. Remerciez Dieu pour la liberté qui rend tout cela possible. Mais souvenez-vous aussi que cela amène aussi une très grande responsabilité. Nous allons devoir répondre devant Dieu de la mesure de lumière dont nous avons disposé à notre époque et dans notre génération. Franchement, je tremble réellement quand je pense à ce qui m'attend. Enfin, le cinquième principe se trouve au verset 16. Au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Quand je dis que Dieu va juger nos œuvres, je ne veux pas simplement dire nos œuvres visibles, mais il va aussi juger les motivations et les intentions qui se cachent derrière nos œuvres. Vous voyez, deux personnes peuvent faire quelque chose qui semble à première vue identique, mais leurs motivations peuvent être tout à fait différentes. Deux personnes peuvent faire une contribution généreuse à une œuvre chrétienne. L'un le fait d'un cœur sincère et plein d'amour pour le Seigneur, son peuple, son œuvre. L'autre peut le faire pour impressionner ses frères et sœurs de l'Église. L'attitude extérieure est la même. Le montant du don est le même. Mais les motivations sont totalement différentes. Et Dieu regarde justement aux motivations. J'aimerais regarder un passage dans 1 Corinthiens, versets 4 et 5. 1 Corinthiens, versets 4 et 5. C'est pourquoi, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins de nos cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Nous sommes souvent avertis de ne pas nous juger les uns les autres. Et la raison invoquée ici, c'est que nous n'avons pas tous les faits, car nous ne voyons que les actes extérieurs. Mais Dieu regarde aux pensées intérieures et aux motivations du cœur. Et il prend tout cela en compte quand il juge. Revenons maintenant à Romains 2, un instant. Et je voudrais traiter là un autre sujet plutôt difficile. Chapitre 2, verset 6. Dieu dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres, et il parle ensuite de deux genres de personnes différentes, celles que Dieu accepte et celles qu'il rejette. Elles sont décrites dans les versets suivants. Il dit au verset 7, à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire, Dieu donnera l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Et je pense que l'essence du problème est ici.
J'ai remarqué une chose en côtoyant les gens, c'est que l'une des caractéristiques des gens qui sont sous la puissance de Satan est un égocentrisme exacerbé. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Ainsi, il y a deux types de personnes. Ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur, l'immortalité, ils recevront la vie éternelle. Et ceux qui sont égoïstement ambitieux et qui refusent la vérité de Dieu, quelle que soit la façon dont elle leur est révélée, mais préfèrent l'injustice. Dieu les livrera à la colère et à l'indignation. Je pense qu'estimer le jugement de Dieu est bien au-dessus de nos capacités. Mais laissez-moi vous parler de ceux qui reçoivent la vie éternelle. Il y a deux caractéristiques. Tout d'abord, ils persévèrent à faire le bien, ce sont les œuvres. Ensuite, ils cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Pour moi, le mot « chercher » implique la foi. Ils croient que Dieu les récompensera selon leur réaction et selon ce qu'ils ont fait. Je crois que ce sont les deux conditions de base pour être accepté de Dieu, quelle que soit l'époque ou la génération, avant l'Évangile ou pendant l'Évangile. Les deux conditions sont de faire le bien, de croire et d'appliquer ce que nous croyons. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il y a diverses façons par lesquelles la foi s'exprime dans différentes générations. Afin de vous aider, j'ai demandé à Dieu de me montrer un exemple de personne qui n'est pas venue à lui sur la base de l'Évangile, mais qui appartient à la catégorie de ceux qui persévèrent et qui font le bien, recherchant la bénédiction de Dieu. Lisons rapidement Luc 11, 31-32. Jésus reprend les hommes de cette génération et dit « La reine du Midi, c'est-à-dire la reine de Saba, se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Il me semble que ces deux catégories de personnes, la reine de Saba et les hommes de Ninive, ne ressusciteront pas à la résurrection des chrétiens, parce qu'ils ressusciteront avec ceux que Dieu a rejetés. Mais ils seront acceptés sur la base de ce qu'ils ont fait. Selon la lumière dont ils disposaient, ils ont répondu avec foi à Dieu par leurs actions. Ce sont deux catégories de personnes, ceux qui, par ce qu'ils ont fait, expriment leur foi en Dieu, et ceux qui ont rejeté la vérité de Dieu et ont préféré l'injustice. Au cas où vous auriez envie de savoir immédiatement qui appartient à quelle catégorie, laissez-moi vous donner une autre affirmation de Romains 11, avec laquelle nous terminerons cette étude. Romains 11, 33. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Alors, laissez-moi vous mettre en garde contre le fait de vous ériger en juge. Cela ne vous appartient pas. Il n'y en a qu'un seul qui juge, et c'est Dieu. Et il nous est clairement dit que ses jugements sont insondables. Vous ne pouvez pas sonder les jugements de Dieu. En dernier ressort, vous devez imiter Abraham qui a dit « Est-ce que le juge de toute la terre ne ferait pas le bien ?» Lorsque j'étais jeune prédicateur, il y a bien longtemps, je pensais que j'avais la responsabilité de savoir exactement qui allait aller au paradis et qui n'allait pas y aller. Et plus je cherchais, plus le nombre de ceux que j'estimais devoir y aller diminuait. Mais Dieu m'a montré que ce n'était pas là mon affaire. Merci Seigneur. Alors ne prenez pas la place du juge, ce n'est pas la vôtre.